Ouais, bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 30 minutes de direct et d'interaction avec notre invité. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir une journaliste qui fait partie, on va dire, des rares remparts, si elle me permet, contre le politiquement correct qui a un peu envahi trop souvent les plateaux de télévision. Qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées ou ses analyses, là, elle mérite souvent d'élever le débat, notamment lorsqu'il vole au ras des pâquerettes. Et vous l'avez lu dans le colonne du Figaro, dans cette maison même. Elle vous a accompagné également les soirs de pluie, parfois dans Ce soir ou jamais, c'était sur France 3. Et vous l'avez aussi adoré, je pense, dans On n'est pas couché, cette fois, c'était sur France 2. Mais aujourd'hui, c'est directrice de la rédaction du news magazine Marianne. Elle officie également chaque soir à la télévision dans une mission grâce à laquelle on peut se forger une opinion sur des thèmes de société brûlants. Ça tombe bien, on est en pleine campagne présidentielle. Natacha Polony, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Merci. Dans le Buzz Télé. Polony News en campagne, je rappelle, c'est le titre de la tranche que vous animez tous les soirs en compagnie d'Aurélie Casse de 20h à 21h sur BFM Télé. Une émission dans laquelle vous débattez évidemment des thèmes de société dont les candidats se sont un peu quand même emparés durant cette présidentielle. Je rappelle, alors là, c'est complètement anecdotique, vous êtes également la présidente de l'Institut du Goût.
Oui, c'est pas du tout, ça n'a aucun rapport avec le journalisme, mais pour moi, c'est quelque chose de très important, mais c'est pas le lieu d'en parler.
Alors, et justement, quelle est pour vous, évidemment, c'est une façon de rebondir, la saveur de cette campagne présidentielle?
Insipide, inodore, incolore, et avec cette espèce de sentiment un peu pâteux, d'avoir des politiques qui jouent le coup d'après. C'est-à-dire que les débats n'ont pas lieu. Et c'est d'où la complexité de faire des émissions et de les faire bien avec l'idée qu'on se fait de ce que c'est que la politique. Quand on a des politiques, dont le principal, à savoir celui qui n'est pas encore candidat, le président de la République, n'ont pas intérêt à ce que les débats se passent. C'est très, très compliqué. Donc, il faut réussir à ne pas en rester à l'écume. Et quand on est obligé de commenter l'écume, d'y introduire un petit peu de pensée, un peu de réflexion de fond, c'est tout un travail, mais qui est une lutte permanente contre cette espèce de délitement du débat politique.
C'est fade. Voire rance, ou même si on raisonne.
Alors, je déteste ce terme rance parce qu'il est aujourd'hui totalement. Enfin, il y a toute une façon d'utiliser ça, les idées nauséabondes, rance. Il y a un côté, olfactif dans le commentaire et qui, en général, cache une réprobation morale qui, moi, me gêne. Donc, rance est un terme que j'essaye de ne pas employer.
Nous sommes en direct avec Natacha Polony sur, je rappelle, le Figaro Live, diffusé sur figaro.fr, mais également sur la page YouTube de TV Magazine. Dites-nous tout, est-ce que vous suivez le rendez-vous de Natacha Polony tous les soirs sur BFM? Est-ce que vous êtes également lecteur ou abonné de Marianne? Dites-nous tout, est-ce que vous voulez la voir davantage d'ailleurs sur le petit écran? Et en attendant, je vous propose de retrouver Damien Canivès pour les news médias du jour. Bonjour Damien.
Bonjour Philippe, bonjour Natacha.
Bonjour.
Natacha, vous connaissez la télévision, on démarre toujours, nous, les premières news médias par les audiences télé de la veille.
Effectivement, et c'est TF1 qui est arrivé en tête des audiences grâce au coup d'envoi de la 17e saison de Grey's Anatomy. Décidément, c'est vraiment interminable cette série portée par Hélène Pompeo et Kevin McKidd. Elle a fédéré près de 3 millions de fidèles, 14,6% de part d'audience, qui est un score d'une stabilité assez incroyable par rapport au lancement de la 16e saison diffusée il y a 2 ans. France 3 obtient la médaille d'argent grâce à un nouveau numéro du magazine Des racines et des ailes, toujours présenté par Carole Gessler. 2,3 millions de voyageurs ont assisté à ce numéro inédit. France 2 complète le podium grâce à la série L'amour presque parfait. Et enfin, on termine avec M6 qui enregistre une baisse significative d'audience par rapport à la semaine dernière avec son émission Qui veut être mon associé, présenté par Xavier Domergue. 1,5 million de fidèles, ce qui représente 500 000 téléspectateurs de moins que la semaine dernière.
Entre BFM Télé et Marianne, il reste une petite place dans votre agenda pour regarder de temps en temps la télévision ou c'est absolument impossible?
Honnêtement, pas vraiment, mais de toute façon, je suis pas friande de la télévision en général. Je vais aimer regarder certaines choses précises qui peuvent m'intéresser, que ce soit certaines émissions de débat. J'étais fan de Ce soir ou jamais ou de ce genre de choses, c'est-à-dire quand il y a vraiment du débat de fond. Mais après, je suis pas grande consommatrice de télévision. Alors, les séries, c'est ultra chronophage.
Ah oui.
Et très franchement...
Donc ça n'a pas de place dans votre vie.
La vie est courte, quoi. On n'a pas le temps de tout faire, donc il y a des choix. Je sais qu'il y a des séries d'immense qualité, je m'en veux, j'ai des trous dans ma culture de ce point de vue-là. Mais il y a des moments, il faut faire des choix. Parfois, quand il faut choisir entre lire un livre ou regarder une série, c'est ma culture de base, je vais plutôt aller choisir le livre.
Et c'est votre travail aussi.
Voilà, c'est mon boulot. Ouais. C'est aussi mon plaisir de lire des livres de littérature, etc. Et donc, je vais aller plus vers ça que vers les séries. Mais c'est un manque, parce que c'est une base culturelle aujourd'hui.
Choisir, c'est renoncer.
Exactement.
Allez, on poursuit ces infos médias avec le nouveau numéro diffusé ce soir de Face à Baba avec Monsieur Hanouna.
Effectivement, après avoir inauguré ce nouveau rendez-vous avec Éric Zemmour, Cyril Hanouna reçoit cette fois-ci Jean-Luc Mélenchon, le candidat à l'élection présidentielle, débattra avec une dizaine d'éditorialistes et de responsables politiques. 5 intervenants, plutôt hostiles au leader de la France insoumise, tenteront de le pousser dans ses retranchements, quand 5 autres, plutôt que sympathisants, on va dire, en tout cas on pourrait les qualifier comme tels, échangeront également avec cet invité fil rouge. Alors selon nos informations, l'avocat Charles Consigny, que vous connaissez un petit peu puisqu'il a participé à la même émission que vous autrefois, qui s'appelait « On n'est pas couché », il a rejoint d'ailleurs la campagne de Valérie Pécresse, c'est ce qu'il a annoncé dans les colonnes du Figaro hier soir. Il fera partie du groupe des contres. Et Émeric Caron, que vous connaissez aussi, puisqu'il a fait partie.
Que je connais mieux.
Et voilà, à côté
lui,
duquel vous étiez.
Même, voilà, c'était en même temps que moi.
Voilà, enfin, vous avez fait 2 saisons, je crois.
Moi, j'ai fait 3 saisons. Et 2 avec Émeric Caron, voilà. Une d'abord avec Audrey Pulvar.
Voilà, bah écoutez, vous retrouverez vos anciens camarades ce soir dans Face à Baba, puisque lui, cette fois-ci, il fera partie des pour, puisqu'il a rejoint la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et pour rappel, le premier numéro avait pulvérisé tous les scores d'audience, puisqu'on avait battu à l'époque le score d'une émission de TNT en prime time, ce qui n'était jamais arrivé jusque-là. Voilà.
Cyril Hanouna, dans le débat politique, c'est moderne, c'est archaïque, c'est crédible, c'est une bonne idée ou pas ?
C'est un constat. C'est ça qui est en train d'arriver et le débat politique est en train de devenir ça. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je comprends parfaitement pourquoi des candidats à une élection présidentielle éprouvent le besoin d'aller chez Cyril Hanouna. C'est logique, il y a un public, il y a une façon d'aller atteindre des gens qui ne votent pas forcément et que les candidats à l'élection présidentielle ne peuvent pas atteindre autrement. Donc, ils y ont intérêt. Après, est-ce que ce sont des débats de qualité ? Cela dit, là, en l'occurrence, quand vous avez des débatteurs qui vont aller parler du fond, ça devient une émission de débat politique, après qu'on aime ou pas le style. Voilà, c'est pas la même chose que de mélanger les genres et de mettre un politique au milieu de gaudrioles et de blagues. C'est pas pareil. Là, pour le coup...
Mais c'est si pas TPMP.
Si ça peut réellement faire en sorte que des gens qui ne suivent pas les débats politiques aient 2-3 idées sur des choix cruciaux, aujourd'hui, ça passe par là, le débat politique.
On poursuit ces infos médias avec une vidéo polémique qui a irrité les journalistes, notamment de la radio France Inter.
Oui, effectivement, le syndicat national des journalistes de Radio France est monté au créneau hier à la suite de la publication d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de France Inter. On y voit Marine Le Pen, candidat du Rassemblement national, répondre face caméra à des questions sur ses premières fois. Alors, la première pensée qu'elle a eue, si elle est élue chef de l'État, sa première manifestation, sa première colère de campagne et même son premier chat. Alors... ces questions ont provoqué un tollé chez les journalistes syndiqués de France Inter qui s'interrogent sur la pertinence de ce format. Je les cite, dans un contexte actuel de défiance vis-à-vis du service public. Guillaume Meurice, dont vous voyez le tweet actuellement à l'écran, il est humoriste au sein de la station et il semble, comme vous pouvez le constater, regretter sur Twitter que France Inter rende l'extrême droite cool et funky.
C'est justifié, Natacha Polanyi, cette indignation
Moi, ce qui me gêne, c'est que ce soit une indignation à géométrie variable. C'est-à-dire, en quoi c'est plus choquant avec Marine Le Pen qu'avec d'autres candidats à la présidentielle, si ce n'est parce qu'on considère qu'elle elle incarnerait un mal moral, auquel cas...
On la rend trop sympathique, finalement, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Mais dans ces cas-là, il faut expliquer qu'on considère qu'il y a un devoir moral des journalistes qui seraient donc des directeurs de conscience et des curés. Ce n'est pas ma vision des choses.
Vous auriez fait donc cette vidéo sur le site de Marianne, par exemple, ou pas ?
J'aurais fait aucune vidéo de ce genre-là, mais avec personne. Moi, ce qui me gêne, c'est l'idée de réduire la politique à des blagounettes. Ouais. Ça me dérange, qu'on éprouve le besoin, en effet, de poser ce genre de questions un peu anecdotiques et sans aucune valeur politique à des candidats. Je préfère qu'on soit dans le débat politique de fond. Après, ça rejoint la question précédente, qui est celle de la transformation de la politique en spectacle. On est obligé de sacrifier à cela en partie. Toute la question est de savoir où on place la limite. En revanche, en effet, ce qui me gêne, c'est quand on considère que ça vaut pour les uns et que c'est acceptable parce qu'eux, ils sont dans le camp du bien, donc on a le droit de les montrer sympas, et les autres qui sont dans le camp du mal, en revanche, là, non. Non.
Vous pensez que cette polémique n'aurait pas eu lieu si ça avait été Anne Hidalgo, par exemple ?
Non, mais bien entendu. Ouais. Tout le monde aurait trouvé ça sans doute consternant, mais personne n'aurait dit que c'était pas bien. Ouais. Voilà.
Merci Damien pour ces news et on vous garde Natacha Polanyi pour l'interview du Buzz Télé. Non, je rappelle, pardon, Polo News en campagne, c'est l'émission que vous incarnez chaque jour de 20h à 21h sur BFM Télé. Vous êtes aux côtés également d'Aurélie Cas, dans lequel vous recevez des éditorialistes qui viennent débattre des sujets de société actuelle. Alors, il y a beaucoup d'émissions aujourd'hui de débats, d'informations, et on voit ce que la plupart des chaînes d'information sont même lancées un peu dans cette compétition. En quoi votre programme se distingue-t-il réellement ?
Je vais vous dire, c'est tout simplement parce que moi, j'ai une vision du débat qui consiste à y introduire en permanence du temps long, des références, des sujets de fond. Donc, j'essaye de faire en sorte que ce soit toujours ça qui prévale. Donc, on a de temps en temps des débats qui sont véritablement des débats sur des sujets complexes, que ce soit quand on essaye de clarifier la question du pouvoir d'achat, quand on essaye de parler de la situation en Ukraine. Et puis, on a aussi du commentaire d'actualité. C'est pour ça que c'est devenu Polo News en campagne. C'était cette émission Polo News avant que la campagne ne soit lancée. Justement, c'était uniquement du débat de fond sur des sujets dont nous estimions qu'ils devaient rentrer en campagne. Et puis, la campagne a commencé. Eh bien, notre travail, c'est d'expliquer aux gens ce qui est en train de se passer. C'est de leur dire, voilà, tel candidat a prononcé telle phrase, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Donc, la question, c'est de savoir comment on mène le débat pour inciter les commentateurs qui sont là à dépasser la simple écume et à aller, on va dire, donner des éléments aux gens pour qu'ils puissent se faire leur propre opinion sur le fond et pas seulement sur la forme.
Damien, première question ou réaction.
Effectivement. On est sur la page YouTube de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions. On a un commentaire très sympathique de Jean-Laurent qui aime beaucoup vos analyses, qui les trouve très justes et il comprend facilement. Voilà,
ça, et bien c'est très sympathique,
voilà,
Jean-Laurent.
Voilà, Jean-Laurent, message de sympathie, il est régulièrement avec nous. On va prendre une question de Fabien qui a remarqué qu'hier soir dans l'émission, vous avez dit que vous aimeriez vous téléporter dans une autre époque.
Ah. Oui, c'est non, mais j'ai
blagué. Dans quelle époque ?
Il y a justement, je ne sais pas. Parce que je ne suis pas. Je ne m'imagine pas en fait que les autres époques étaient mieux. Je disais ça, c'était une boutade. J'expliquais que j'avais demandé mon exil chronologique.
Oui, exactement. C'était
voilà, dans une autre époque, parce que c'est vrai que tous les jours, on a une information sur la dernière stupidité en date, que ce soit des trucs totalement anecdotiques, du genre, là, nous, on a publié ça sur Marianne, sur le site de Marianne, aux États-Unis, les M&M's vont changer pour que les personnages soient plus inclusifs parce qu'ils étaient trop féminisés. Ouais. Voilà, moi, ça me donne envie de me flinguer quand je vois ça. Voilà, donc ce genre d'informations me fait dire que notre époque a quand même une capacité à augmenter le taux de conneries au mètre carré, mais qui est fascinante.
Mais comment vous expliquez ça ? Les gens s'ennuient ou ce sont les réseaux sociaux qui c'est sont une caisse de résonance incroyable ?
Confinement, le Covid aussi, est-ce que ça n'a pas joué un rôle finalement d'espèce de
le confinement
de renfermement sur soi-même ?
Je pense que le confinement a joué un rôle majeur qu'on ne mesure pas encore, ne serait-ce que sur la capacité des gens à se vivre comme citoyens. C'est-à-dire que je crois qu'on est en train de vivre une dépolitisation totale et une sorte de renfermement. Il y a beaucoup de gens qui finalement ont eu très peur et se sont dit que c'était très bien d'avoir une puissance tutélaire qui décidait à leur place et qu'après tout, la politique, c'était pas à eux de s'en occuper. Et ça, moi, je trouve ça terrifiant parce que c'est la fin de la démocratie. Les réseaux sociaux jouent un rôle là-dedans. Et ils amplifient évidemment les réactions idiotes, les emballements, les choses comme ça. Mais il y a aussi tout simplement l'importation d'une culture puritaine américaine que je trouve absolument affligeante. Alors, le wokisme est un terme qu'on emploie beaucoup, je dirais tout simplement une forme de puritanisme qui réduit le monde à un conflit entre des dominants et des dominés, sachant que les dominants, c'est toujours les mêmes, c'est le mâle blanc hétérosexuel qui est vraiment une raclure putride. Bon, ben voilà, moi, c'est le degré zéro de la pensée.
Un peu court, effectivement. Oui.
C'est dit. Vous portez également dans l'émission un édito qui s'appelle l'humeur de Natacha Polony. Vous êtes de bonne humeur, là, aujourd'hui ? Vous avez l'air ? Ou ce climat, finalement, d'une certaine manière, on sent qu'il vous oppresse ?
Je me dépêche de rire de tout, de peur d'être obligée d'en pleurer. Hein ? C'est beau marché, voilà. Ouais. Et c'est pour ça que j'essaie, justement, dans cette émission, d'apporter à la fois un peu de fond, et en même temps un peu de bonne humeur. Et surtout une forme d'ironie qui finalement fait du bien. Regardez les choses avec un tout petit peu de distance. Je pense que ça nous fait du bien à tous. Et aussi un peu de légèreté, un peu de drôlerie. Je crois qu'on en a tous besoin.
Votre travail, c'est aussi de donner votre opinion. Vous l'avez dit, en effet, dans les débats que vous animez. Sur l'échiquier politique, vous êtes plutôt du côté Zemmour ou du côté Mélenchon ?
Alors,
si on devait vous positionner sur une carte.
Je pense que je suis assez difficile à positionner et que c'est ça qui est drôle. Ouais. C'est-à-dire que, en gros, les gens de droite ou d'extrême droite considèrent que je suis une infâme gauchiste, et les gens de gauche ou d'extrême gauche, pour certains, considèrent que je suis évidemment une crypto-fasciste. Et je pense que c'est assez rassurant, c'est-à-dire que je suis à la fois engagée, moi j'assume le fait d'être à la tête d'un journal, Marianne, qui est non pas seulement un journal d'opinion, mais un journal d'engagement. C'est-à-dire que nous avons des convictions, nous les portons, nous avons une vision du monde, de l'être humain. Simplement, ça ne me fait appartenir à aucun camp. Et je déteste le côté partisan, le côté « on va défendre à tout prix ce camp-là parce que ceux d'en face sont des pourritures ». Je pense qu'on ne peut pas penser politiquement comme ça.
Je rebondis, c'était dans son livre « Radicalisé » d'Étienne Gérard, journaliste à l'Express. On apprend qu'Éric Zemmour vous considère comme une souverainiste de gauche. Ça veut dire quoi ?
Alors, souverainiste, c'est un mot qui est devenu quand même, qui est devenu une espèce d'insulte dans le débat politique, alors que le concept de souveraineté est fondamental en politique, mais il avait totalement disparu. Il ressurgit, c'est Emmanuel Macron qui l'a fait un peu ressurgir avec l'idée de souveraineté européenne, concept totalement vide. Mais très important, hein, penser l'indépendance de l'Europe sur ces divers sujets. Mais en gros, la souveraineté, c'est quoi ? La souveraineté, ça se confond avec la démocratie. C'est l'idée qu'il n'est pas de démocratie possible sans que ce soit le peuple qui décide et sans que la nation soit indépendante, parce que sinon la volonté du peuple ne peut pas s'exercer. J'y ajoute un troisième échelon de la souveraineté, donc nationale, populaire, et la souveraineté individuelle, c'est-à-dire le fait que chacun doit avoir les outils pour penser par lui-même et ne pas dépendre d'autrui dans son jugement. Donc il me semble qu'il ne devrait pas y avoir de souverainisme. Il devrait y avoir des démocrates, c'est-à-dire des gens qui croient que la souveraineté est fondamentale et qu'il faut la défendre. Après, de gauche, peut-être, je crois, je viens de signer dans Marianne, qui sort aujourd'hui, un édito pour appeler à la fondation d'un socialisme français, c'est-à-dire une véritable pensée de gauche qui pense les moyens de production. Parce qu'on a arrêté de penser cette question qui est essentielle et qui permet de penser la question du climat, qui permet de penser la question de la répartition des richesses et qui permet de sortir de cette transformation du citoyen en consommateur, c'est-à-dire en rouage de la machine économique. Après tout, est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite ? Je m'en brosse le nombril avec le pinceau de l'indifférence. Voilà.
C'est dit aussi, Damien.
Allez, on va prendre une question de Rico, qui sait que vous avez effectivement, on l'a rappelé tout à l'heure, participé à l'émission On n'est pas couché sur France 2. 3 saisons, 2 saisons avec Émeric Caron. La première, c'était avec Audrey Pulvar.
Voilà.
Quel souvenir vous gardez de cette période ? Est-ce que vous êtes toujours en contact avec Laurent Ruquier ?
Alors, Laurent Ruquier est un grand timide et moi aussi.
Ouais.
Donc, en fait, on n'a pas vraiment gardé de lien. Je veux dire, je travaillais avec lui, c'était très plaisant et c'est quelqu'un qui est profondément respectueux des gens. Donc, ça se passait très bien. Mais nous n'avons pas de lien d'amitié, peut-être, ouais. Parce que je n'ai jamais osé. J'ai jamais osé, lui non plus. Voilà. Et je ne sais pas, après, si je suis, j'allais dire, idéologiquement, ouais. Vraiment sa tasse de thé. J'en sais rien, mais ouais. C'est pas grave. Ça n'empêche pas de travailler ensemble et de se respecter. Donc après, dans cette émission, ben voilà, Audrey Pulvar est partie au bout d'un an parce qu'elle a dû quitter, puisqu'elle était à l'époque la compagne d'Arnaud Montebourg, ouais. Ce qui nous raconte là aussi les questions de lien entre journalistes et politiques. Voilà, et c'est une question très complexe. Et puis Émeric Caron, 2 ans. Voilà.
À propos justement des idées dont vous parliez de Laurent Ruquier notamment, Rico, notre internaute, donc, ajoute qu'il nous vend le samedi soir une gauche dont on ne veut plus. Est-ce que vous partagez ce commentaire ?
Écoutez, moi, il m'est arrivé très, très souvent de me retrouver sur un plateau où on était 8 et j'étais la seule à défendre une idée et tous les autres étaient... Ouais. Donc voilà, je pense d'ailleurs que Éric Zemmour a vécu la même chose ouais. Pendant des années. Bon, bien sûr, je pense qu'il y a en effet une forme de gauchisme culturel qui est très répandue dans les médias, dans le monde artistique et qui... en partie, est coupée de la population et notamment des classes populaires. Et je pense que c'est extrêmement inquiétant. On en revient à mon édito dans Marianne sur la question de ce que doit être la gauche et une véritable pensée de gauche. Je crois que la gauche coupée du peuple, c'est quelque chose de majeur et je crois que c'est un malentendu énorme. C'est un abandon de la lutte des classes au profit de cette espèce de fantasme de la gauche comme partie du mouvement. Mais sachant que le néolibéralisme est fondé sur justement le mouvement, les flux, la libre circulation, donc s'intituler partie du mouvement, quand justement le mal vient de la libre circulation, c'est quand même ouais. Totalement idiot.
Ou faut être schizo.
Ouais.
C'est ça.
Vous êtes accompagné, hein, dans, je rappelle, dans Polo News en campagne d'Aurélie Icasse, à la présentation. Pourquoi, alors que cette émission porte votre nom, vous n'êtes pas toute seule?
Mais justement parce qu'elle est indispensable, Aurélie Icasse. C'est-à-dire que c'est comment elle, en fait...
Rôles.
Ah, mais vous voyez, si vous regardez l'émission, vous verrez. Ouais. Aurélie est quelqu'un qui sait animer une émission, ce qui n'est pas forcément mon métier. Moi, je sais débattre d'idées. Elle, elle sait faire une interview, orchestrer, distribuer la parole, reprendre la main, gérer un direct quand il y a quelque chose qui vient interrompre totalement un débat d'idées.
C'est vrai que vous avez du mal à reprendre la main. On l'a vu hier notamment dans l'émission, lorsque un invité est parfois un peu long. Vous avez du mal quand même à l'interrompre.
C'est pas que j'ai du mal, c'est que je respecte aussi l'idée qu'on doit pouvoir aller au bout d'un raisonnement. J'ai horreur de couper la parole quand il y a une construction. Ouais. Moi, j'estime qu'on doit pouvoir prononcer plus de 3 phrases d'affilée sur un plateau de télé. Quoi.
C'est punk de penser ça aujourd'hui quand vous faites de la télévision.
Une question, Damien.
Allez, on va prendre une question de Pokéfan qui trouve qu'il y a beaucoup de commentaires politiques de journalistes qui convergent pour dire que cette campagne présidentielle est de bas niveau. Est-ce qu'elle l'est vraiment plus que les précédentes?
Alors, elle l'est plus, je pense, dans le sens où on est là, il est flagrant que nous ne débattons pas des sujets qui pourtant vont engager l'avenir. C'est vrai, c'était vrai aussi de la campagne de 2017 où on a été à temps plein sur les costumes de François Fillon. C'est-à-dire que tout ce qui était crucial, on est passé à côté. Donc c'était déjà une campagne pour rien. Celle-là risque de l'être aussi. Je pense qu'il y a eu la campagne de 2012 a été polluée par l'espèce d'obsession de l'anti-sarkozisme et par les faux-semblants de François Hollande, parce que mon adversaire, c'est la finance. Enfin, quand on connaît un tout petit peu l'histoire politique de François Hollande, c'est quand même à mourir de rire. Mais il n'y a pas de... Mais au moins, il y avait une opposition. Je dirais que la dernière vraie campagne qu'on ait eue, c'est peut-être celle de 2007. Parce que là, il y a eu des débats de fond. On a parlé de la valeur travail, on a parlé de l'école, on a parlé pouvoir d'achat. Les choix, à mon avis, n'étaient pas les bons, mais au moins, il y avait du débat. Depuis, de quoi est-ce qu'on parle exactement? On a cru au début de cette campagne qu'on allait pouvoir débattre, par exemple, d'énergie. Oui. Et c'est vrai, pour le coup, heureusement que la question de l'énergie, du nucléaire a surgi. Je ne suis pas sûre qu'elle soit tranchée, mais au moins, c'est un des sujets sur lequel il y a eu débat.
Le pouvoir d'achat est revenu que dans la campagne, là, depuis quelques
semaines. Oui, le pouvoir d'achat, en revanche... Est-ce qu'on est en train de débattre éducation, enseignement supérieur, alors même qu'il y a un décrochage français tragique? Est-ce qu'on est en train de débattre correctement d'écologie? Est-ce qu'on est en train de débattre aménagement du territoire, logement, qui sont des sujets essentiels, parce que, et d'ailleurs qui doivent se penser ensemble? Tout ça passe à la trappe. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a le coronavirus et que Emmanuel Macron a eu intérêt à amplifier ça pour justement éviter le bilan, les sujets qui fâchent. Et on est tous là totalement anesthésiés. Mais on est à une période charnière, c'est-à-dire que sur beaucoup de sujets, l'avenir de la France et sa capacité à défendre son indépendance et ses intérêts, ça se joue maintenant.
Un mot de la concurrence. Hein. Vous êtes face à un concurrent de taille, hein, quand même, à l'heure. De Polynews, en face, c'est Pascal Pro avec l'heure des pros 2 hein, sur CNews. Il fait à peu près 700-750 000 fidèles téléspectateurs. Quand vous en faites 150 000 à 200 000, c'est difficile finalement de rivaliser avec Pascal Pro, à votre avis?
Mais je ne rivalise pas avec Pascal Pro. c'est des offres complètement différentes. Enfin, franchement, je ne fais pas la même chose que lui. Je ne cherche pas à le concurrencer.
Pascal Pro, femme.
Mais non, rien à voir. C'est-à-dire, et d'ailleurs, je pense qu'il y a suffisamment de diversité d'offres pour que les gens puissent aller choisir ce qui va leur plaire. Moi, ce que j'offre à ce moment-là, c'est, on va dire, sur un ton assez, enfin, que j'espère pétillant, de bonne humeur, avec un peu de drôlerie et de recul, des idées, de l'analyse politique, voilà. Je le fais de mon mieux. Si il y a un public qui adhère à ça, et je me réjouis parce que je pense quand même que quand on regarde depuis le début de l'année les audiences, on voit qu'elles augmentent. Donc il y a visiblement des gens qui trouvent que c'est pas si mal. Tant mieux. Mais il y a suffisamment de place sur le paysage audiovisuel pour que chacun y trouve son bonheur.
On vous retrouve aussi dans face à BFM, hein, qui est une nouvelle émission qui est diffusée en prime time où un candidat présidentiel répond. Aux questions des journalistes, le prochain numéro, ce sera quand? Parce qu'il devait être, a priori, il devait y avoir une Marine Le Pen invitée cette semaine qu'on n'a pas vu venir.
On n'a pas vu venir parce qu'on est en train, parce qu'il y a des agendas, la question de la, enfin, le percutage de la campagne par le coronavirus, différentes choses. Après, je ne sais pas Exactement, c'est pas moi qui gère les arbitrages de calendrier, donc je ne sais pas.
On vous retrouvera dans, ce rendez-vous.
Voilà, après, moi, j'ai pas les c'est pas moi qui gère les agendas, donc je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on va avoir voilà, tous les grands candidats. J'ai plus en tête le prochain et j'en demande pardon.
On suivra avec
il y aura Yannick Jadot, je crois.
Alors, il y a Yannick Jadot qui est prévu, ouais. En effet. Et non, c'est l'avantage d'une émission comme celle-là, c'est que vous avez tous les grands noms de la chaîne, ouais. C'est-à-dire que vous avez Apolline de Malherbe, vous avez Benjamin Duhamel, vous avez Bruce Toussaint, ouais. C'est-à-dire que vous avez des gens différents, ouais. Avec des cultures différentes, et qui donc vont avoir une façon d'aborder les choses très différente. Si vous avez regardé l'émission avec Éric Zemmour, je veux dire, on n'a pas la même façon de débattre ou de poser des questions. D'ailleurs, certains vont avoir tendance à débattre, d'autres vont avoir tendance à poser des questions, d'autres vont faire de... Et c'est ça l'intérêt d'une émission comme ça fait surgir quelque chose.
Il y avait des questions d'ailleurs plus personnelles qu'on n'avait pas...
Oui, mais bien sûr, qui ont permis à Éric Zemmour de dire des choses qu'il n'avait jamais dit d'ailleurs.
Damien.
Allez, on va prendre une question de Sandrine qui souhaite avoir votre regard sur la mise à l'écart de l'antenne de Jean-Jacques Bourdin. Alors Jean-Jacques Bourdin, qui est l'intervieweur star de BFM TV, qui est accusé d'agression sexuelle par l'une de ses anciennes consoeurs, et la chaîne a décidé de le mettre à l'écart et de l'écarter.
Qui avait lancé la France dans les yeux d'ailleurs, un nouveau rendez-vous politique. Voilà.
Bah oui.
Sachant que la justice ne s'est pas encore prononcée sur cette question.
C'est pour ça. C'est-à-dire que c'est toute la difficulté, et c'est toujours la même quand il y a ce genre d'accusation. Donc BFM TV a été obligé d'écarter Jean-Jacques Bourdin parce que, tout simplement, pour le bien de l'antenne et la capacité à interroger des politiques, c'était nécessaire. Après, il est présumé innocent et la justice va se prononcer. Mais bon, c'est comme partout. Quand vous avez ce genre d'accusation, vous savez très bien que dans un débat politique, c'est très compliqué d'être suffisamment à l'aise.
Ça peut être instrumentalisé.
Exactement. Et donc, pour éviter l'instrumentalisation, une chaîne de télé n'a pas vraiment le choix.
Ne pas mettre BFM en porte-à-faux, on imagine, vis-à-vis, en effet, de la... Du cercle politique au sens large.
C'est tout simple.
L'un des noms qui revient souvent, on en a beaucoup parlé déjà, c'est Éric Zemmour dans votre émission. Est-ce que d'une certaine manière, on peut lui dire merci d'avoir un peu enflammé finalement et réveillé cette campagne présidentielle?
Oui, il a un mérite, c'est qu'il a apporté des idées, qu'on apprécie ses idées ou pas. Il a essayé de mettre des sujets sur la table et il a permis qu'on débatte de sujets que je pense essentiels et qui peut-être étaient un peu facilement laissés sous le boisseau, que ce soit la question de l'immigration, la question de l'identité. Moi, ça ne m'a jamais fait peur d'aborder ces sujets-là et de les aborder en allant au fond des choses. Donc je pense qu'il a ce mérite-là. Il a bousculé, il y a un côté coup de pied dans la fourmilière qui est intéressant.
Et vous trouvez que c'est un bon orateur ?
Alors ça dépend de ce qu'on appelle orateur. Vous savez, des mauvais orateurs, il y en a beaucoup en politique. Hein. Des gens qui ne sont pas des humains. En tout cas, indéniablement, il a fait un meeting comme le meeting de Villepinte qui, indéniablement, d'un point de vue strict de forme, de production, était réussi. Après, encore une fois, on peut débattre de ses choix en matière de programme. C'est-à-dire que, et c'est quand je me suis retrouvée face à lui, ce que je lui ai dit, c'est-à-dire que autant, et c'est un peu, j'ai écrit des choses depuis 20 ans qui prouvent que sur certains diagnostics, on peut se retrouver, autant c'est les solutions qu'il apporte, je ne les partage absolument pas. Et il faudrait pouvoir aller plus loin dans la discussion. Mmh. Mais au moins, il pose un diagnostic, il pose des questions. Moi, j'estime que cette position-là est nécessaire. Ceux qui prétendent qu'il ne faut pas laisser la parole parce que c'est mal, parce que ce n'est pas bien. Donc, ça fait 30 ans qu'on fait ça avec le Rassemblement national. Ça fait 30 ans qu'on le voit monter. Donc l'ostracisme, je ne vois pas l'intérêt. Une idée, ça se combat avec une autre idée.
Damien, une dernière question, une réaction.
Une question de Jean-Charles qui aimerait savoir quelle formation politique vous allez prochainement rejoindre, parce qu'il note qu'effectivement, beaucoup de vos anciens camarades se sont lancés en politique, d'Audrey Pulvar à Émeric Caron en passant par Éric Zemmour. Est-ce que vous allez sauter le pas?
Il reste Éric Nolot, Léa Salamé.
Exactement.
Qui n'y sont pas. Christine Angot non plus.
Christine Angot, pas pour l'instant, effectivement.
Consigny, non, dont on parlait tout à l'heure.
Oui, Charles Consigny, effectivement. Oui.
Dernier venu.
Je pense que c'est révélateur de quelque chose, mais qui est lié au format de cette émission, qui était d'ailleurs une émission très intéressante. Pourquoi ? Parce que vous aviez 5 heures d'enregistrement, avec plus d'une heure de débat politique, et pour débattre pendant une heure avec un politique, vous ne pouvez pas en rester à la posture de l'intervieweur. Ouais. Vous êtes obligé de vous engager. C'était d'ailleurs le contrat de cette émission. Chacun venait avec sa subjectivité et débattait d'égal à égal. Donc vous agitez des idées. Et donc au bout d'un moment, ces idées, vous allez les défendre. Et je veux dire, il n'y a rien de mal à ça. C'est simplement qu'en revanche, il va falloir réfléchir vraiment à ce que signifie cette porosité de plus en plus grande entre le monde médiatique et le monde politique, mais à mon avis, ça raconte surtout le vide du monde politique. Lisez les mémoires de Jean-Pierre Chevènement, où il y a les récits de tous les grands congrès. Oui, que j'avais soutenu. Moi, avant de faire du journalisme, j'ai été candidate aux législatives. J'étais dans la campagne de Chevènement en 2002. Bon. Mais vous lisez dans ces mémoires les récits des congrès du Parti socialiste. Mais la masse d'intelligence, de pensée qu'il y avait, mais même dans les jeunesses socialistes, c'est-à-dire qu'un courant déposait une motion, c'était 150 pages de réflexion politique, et en face, directement, le courant d'en face posait 150 pages de réflexion. Il y avait des programmes, il y avait... Aujourd'hui, où est-ce que vous trouvez ça ? Nulle part. Donc, le monde politique cherche des gens qui vont pouvoir accrocher un peu l'opinion, réveiller un peu les citoyens, et ils vont chercher ceux qui ont de la notoriété. Mais ce n'est pas seulement français comme phénomène. Regardez Zelensky en Ukraine, regardez même le phénomène Beppe Grillo dans un autre style, oui. C'est-à-dire que le monde médiatique, la notoriété médiatique permet d'atteindre les citoyens. Ça nous prouve la faiblesse de la pensée politique.
Est-ce que vous seriez prête à réveiller le monde politique ?
Écoutez, je pense que... d'abord, je n'ai pas la prétention de dire « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau ». Parce qu'on ne sait jamais. Simplement, pour l'instant, je suis à la place où je suis, je fais mon travail du mieux que je peux, mais j'estime que là où je suis, j'exerce un rôle démocratique. Oui. C'est-à-dire que les médias ont une responsabilité dans une campagne politique. C'est eux... qui apporte, regardez, c'est la campagne de publicité de BFM TV. Elle surprend, elle accroche, vous savez.
Ils
ne sont pas candidats, mais ils peuvent vous aider à choisir. Ouais.
Avec les photos des animateurs et journalistes de
voilà, mais
de
c'est
chaîne.
Tout à fait ça. C'est ça le but. Nous apportons les arguments, nous ne disons pas aux gens ce qu'ils doivent penser, mais nous leur disons, il y a ça, on le remet dans tel contexte, à vous de vous faire votre opinion.
Un mot sur Marianne, qui a fait plutôt un beau parcours en diffusion, une augmentation de 7% sur l'année intermédiaire 2020-2021, croissance de 7% à 132 000 exemplaires. Il y a une polémique. Cette semaine, la Société des rédacteurs est montée au créneau au sujet de Caroline Fourest, qui est en effet une nouvelle chroniqueuse. Alors l'histoire est un peu compliquée. D'une manière générale, c'est quoi ? Vous allez la garder, votre soutien ou il y a un imbroglio aujourd'hui, il va falloir purger d'une certaine manière.
L'histoire est complexe.
On
ne va pas s'y étendre. Voilà. Il y a un article qui est paru sur Arrêt sur Image qui résumait cette histoire. Caroline Fourest est chroniqueuse à Marianne, c'est-à-dire qu'elle est, elle est collaboratrice régulière.
Elle n'est pas salariée,
elle était là avant que j'arrive, elle est chroniqueuse depuis 2016. Mais elle est aussi membre du conseil de surveillance du groupe CMI auquel appartient Marianne. Voilà, cette polémique repose sur un débat journalistique de fond. Sur une enquête que moi j'ai choisi de faire paraître, une enquête de notre journaliste Gabriel Libert. Le débat de fond, je ne vais pas m'étendre dessus, il est complexe. Caroline Fourest va, je pense, prendre ses responsabilités sur ce qu'elle pense de Marianne. Elle a sans doute des conclusions à en tirer. Ces choses-là sont en train de se décider. Voilà.
D'accord.
Mais la seule chose, c'est que moi, j'ai eu la liberté de faire publier cette enquête, alors même que Caroline Fourest contestait ce qui était écrit et qui était donc le fruit d'un travail de long terme. J'ai eu la liberté totale de le faire, c'est-à-dire que le groupe CMI m'a dit, et ils le font, je dois le reconnaître depuis le début, c'est ta responsabilité, tu fais en ton âme et conscience, et l'actionnaire n'a pas à s'immiscer là-dedans. Donc l'actionnaire ne s'est pas immiscé. Après, ça plaît ou ça ne plaît pas à Caroline Fourest, c'est un autre débat.
Chacun prend donc ses responsabilités, comme vous l'avez dit. On termine cet entretien avec notre nouvelle rubrique qui s'appelle « En toute franchise ». La franchise, depuis le départ de cet entretien, elle est là. Évidemment, vous devez répondre
avec
la plus grande sincérité possible. Le plus beau souvenir de votre carrière ?
C'est
journaliste, donc.
Oui, alors c'est le genre de question auxquelles j'ai du mal à répondre, parce qu'au moment où on pose cette question, il y a plein de choses qui se percutent.
L'image qui arrive.
Oui, plein d'images. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Qu'il y a des interviews de gens extraordinaires qui sont les plus beaux souvenirs de carrière.
La plus belle, par exemple. J'imagine qu'il y en a une qui vous a marqué durablement.
c'est difficile. Ouais. J'ai la figure de Marcel Gauchet qui me vient parce que c'est un euphorisant pour moi d'interviewer Marcel Gauchet, tellement cet homme est intelligent, tellement il est plaisant. C'est d'avoir, d'avoir réussi à faire des débats, certains débats, comme vous voyez. Le beau souvenir, c'est quand un invité, par exemple, sort du plateau de Polonews et me dit « on n'a jamais eu un débat comme ça sur une chaîne d'info ». Ça, voilà, c'est ça ma fierté, en fait. C'est ça qui me rend heureuse.
Ça vous fait avancer.
Oui.
Ouais, alors, à l'inverse, votre pire souvenir, maintenant ?
Je pense que il y a eu des fois où je me suis retrouvée il y a longtemps sur des plateaux de télé face à des gens qui étaient de mauvaise foi et je sais mal gérer la mauvaise foi. Ouais. Un de mes souvenirs, d'ailleurs, c'est pas le pire parce que ça m'a permis d'être prise à On n'est pas couché. C'est ça, c'est cette interview-là. J'étais interviewée chez Thierry Ardisson pour débattre bioéthique avec le professeur Friedman. Et il y avait deux amis du professeur Friedman, Bernard Kouchner et l'abbé de la Morandais. Ouais. Et on était...
Sujet sérieux, donc.
Voilà. Ouais. Et sauf qu'on était en 2011, en pleine intervention de la France en Libye. Et à un moment donné, ils se mettent tous à dire « c'est formidable, la France va aller sauver des vies ». Et moi, petite journaliste qui venait pour la bioéthique, je dis « excusez-moi, mais enfin, on a fait 2-3 âneries en Irak, il me semble qu'on pourrait y aller mollo. C'est bien sûr qu'il y a des vies à sauver, mais faisons attention, je suis très très... » Ils me sont tombés dessus les trois avec une hargne, une violence. Bernard Kouchner me disant que c'était n'importe quoi, que je racontais n'importe quoi, que je n'y connaissais rien, etc. Et finalement, Thierry Ardisson n'a gardé que ce moment-là à la diffusion. Il a viré le débat bioéthique.
C'est le style Ardisson.
Ça a fait du buzz, donc, c'est à l'époque.
Catherine Barma était devant sa télévision à regarder ça et s'est dit, elle sait tenir. Mais sur le coup, c'était d'une violence totale parce que je ne m'attendais absolument pas à me faire tomber dessus par des gens qui, pour moi, avaient une stature. Je veux dire, l'abbé de la Morandais, je pensais qu'il y avait quand même une certaine retenue chez cet homme.
En principe.
Et Bernard Kouchner, à l'époque, est sorti du plateau en disant à Thierry Ardisson devant moi, écoutez, il faudrait penser à prendre des gens sérieux tout de même.
Ah ouais.
Le coup de pied de l'âne. Question plus légère, est-ce que vous avez une manie, un tic, voire un toc lorsque vous rentrez sur un plateau télé ? Chez BFM, par exemple.
Non, je ne suis pas très... Je ne suis pas superstitieuse. En général, je fais des blagues. C'est l'avantage, on se marre bien avec Aurélie Cas, c'est ce qui donne une bonne ambiance. Donc, c'est vrai qu'il y a très, très souvent des plaisanteries juste avant.
Ça allège le sujet.
J'ai peut-être un tic quand même, c'est qu'au moment où je vais avant elle, puisque je dois faire le teasing de l'émission, donc quand je quitte le bureau... pour aller en bas, en général, c'est vrai que je lui dis « bon, allez, à tout à l'heure », enfin, sauf si je décide de me casser, finalement. Voilà. Peut-être que c'est récurrent.
Dernière question.
Allez, une question. Si vous n'aviez pas été journaliste, présentatrice, essayiste, écrivaine, quel autre métier vous auriez aimé exercer ?
Alors, justement, je ne suis pas écrivaine. Ouais. Et quand j'étais petite, mon premier souvenir, d'une fois où je me suis dit « c'est ça que je veux faire plus tard », c'était écrivain.
Ah oui, c'est voilà. Vrai.
Je pense que je n'ai jamais eu le courage de me confronter à mon potentiel manque de talent.
Et pourtant, vous écrivez.
C'est pas du tout la même chose. Je crois que j'ai, en fait, c'est le problème d'avoir fait des études de lettres et donc d'avoir lu beaucoup, beaucoup de chefs-d'œuvre. Ouais. C'est qu'on a conscience de ce qu'on est face à...
Un petit complexe d'infériorité, en gros, c'est ça.
Voilà, et je pense qu'il y a, une forme d'inhibition, mais peut-être qu'un jour, j'aurai le courage.
Vous aviez travaillé dans l'enseignement à une époque.
Oui, j'ai été professeure. J'ai été professeure dans l'éducation nationale pendant un an, puis après, pendant 9 ans, à la fac Léonard de Vinci, donc dans le supérieur, des étudiants entre bac plus 1 et bac plus 5, où j'enseignais la culture générale. Et c'est vrai que ça, je regrette ça. Et très souvent, je me dis que j'adorerais avoir le temps, et peut-être que je le prendrais, d'aller de temps en temps dans des classes et de faire ce que je peux pour essayer d'être utile.
Faire progresser. Faisons une dernière question, un peu de fiction. L'élection présidentielle se tient dans quelques mois, ça ne vous a pas échappé. Admettons, vous êtes élu le nouveau chef de l'État. Enfin, une femme à la présidence. Votre première mesure, ce sera laquelle ?
Alors, ma première mesure, je l'ai écrite cette semaine dans Marianne.
Dans l'édito ?
Ça tombe bien.
Non, pas dans l'édito. Dans l'ouverture d'un énorme dossier sur la géopolitique. Première action, j'appelle... évidemment, Joe Biden, Ursula von der Leyen, j'envoie un message à Xi Jinping, j'appelle Poutine, je ne me rends pas à Berlin. Le premier axe, c'est de ne pas aller en premier à Berlin. Parce que je pense que Le rééquilibrage des rapports entre la France et l'Allemagne fait partie des enjeux à venir pour préserver la capacité de la France à défendre ses intérêts. Ça ne veut pas dire être
utile. Et de dialoguer davantage
ça
avec
veut dire,
les autres.
Et évidemment, ensuite, de créer des alliances, de s'appuyer sur l'Espagne, l'Italie, la Grèce, qui ont été très abîmées ces dernières années par la façon dont a été gérée l'Union européenne. Donc voilà, je pense que ça, ce serait un geste symbolique extrêmement important.
Un geste fort. Merci, Natacha Polony, d'être venue dans le Bestseller. Je rappelle, on vous retrouve tous les soirs donc dans Polonews en campagne. Chaque jour, c'est à 20h sur BFM Télé et dans tous les bons kiosques, avec le fameux édito, avec le magazine Marianne. Demain, on reçoit...
Eh bien, demain, pardonnez-nous, on va aller du côté d'une chaîne concurrente. Demain, ce sera un journaliste de LCI qui officie aux côtés de Ruth Elkrief chaque jour. Il s'agit de Paul Larouturou qui sera donc à nos côtés demain sur ce plateau.
Merci encore et très bonne journée.
Merci.